Bonsoir, et l'occasion qui m'est donnée de partager avec vous ce sujet à la fois difficile parce qu'il nous est très proche, nous sommes les uns et les autres directement concernés par cette thématique de la vie et de la mort. Je vais essayer de vous offrir un panorama, un regard aussi large que possible. Bien conscient que sur un sujet pareil, vous le réalisez, on ne peut dire que deux, trois choses, quelques indications qui mériteraient chacune, je dirais, d'être approfondies. C'est dire aussi que je compte beaucoup sur ce temps d'échange qui permettra les uns et les autres d'avancer dans cette exploration de la vie et de la mort. À partir des questions qui se sont posées. Comment est-ce que nos ancêtres du Paléolithique s'imaginaient la vie et la mort? Est-ce que même ces questions, ces notions avaient un sens? Il semble bien que une étape décisive dans le processus d'humanisation soit la conscience de la mort, qu'on peut repérer à travers la présence de tombes et de rites funéraires, parfois liés à l'idée d'une vie après la mort, comme l'attestent en particulier les objets que l'on peut trouver à côté des cadavres. Mais quelle représentation de l'au-delà! Des dessins remarquables laissés dans certaines grottes, au fond, ne nous disent pas vraiment. Ce que nous savons de manière alors plus assurée, c'est que dès le néolithique, et plus encore avec la naissance des grands systèmes religieux organisés, la mort et l'au-delà prennent une importance quasi universelle. Et l'historien des religions, que je vais être un peu devant vous ce soir, se trouve devant un champ d'investigation qui traverse les âges et les cultures de l'humanité. En effet, aucune culture n'accepte sans autre la mort. Elle cherche plutôt à la circonvenir, à neutraliser la menace qu'elle représente pour la vie. Par des voies différentes, elle cherche un moyen de dire que la vie reprend le dessus, que l'existence humaine débouche sur un au-delà, ou à tout le moins qu'elle n'est pas un pur néant. Et nous voilà confrontés à une abondance de témoignages, restes archéologiques, modes de sépulture, rites funéraires, textes religieux de toute nature, livres sacrés, formules doctrinales, chants, invocations, expression aussi de la religion populaire, œuvre d'art. Et la tâche alors est double, je dirais d'une part répertorier et comparer les différentes représentations de l'après-mort, de manière à offrir un panorama aussi large que possible et aussi fidèle que possible. Et d'autre part, analyser les différentes formulations pour essayer de dégager le sens qu'elles revêtent pour les adeptes. Alors ce soir, je me propose dans un premier temps une sorte de typologie de l'humanité confrontée à la mort, pour aborder dans une deuxième partie le comportement pratique face à la mort dans un certain nombre de traditions religieuses, il faudra bien choisir, et déboucher dans une troisième partie sur les différentes représentations de la destinée post-mortem. Donc, première partie, l'humanité face à la mort. Si, comme on le dit volontiers, la conscience de la mort est le propre de l'être humain, elle demeure un scandale, proprement impensable. Impensable lorsqu'il s'agit de ma mort. Difficilement surmontable lorsqu'elle touche des êtres aimés. Et dans tous les cas, intolérable lorsqu'il s'agit d'innocents, des enfants, victimes d'accidents, de crimes ou de génocides. Confronté à cette mort, aussi certaine qu'inconnue, et qui pose la limite irrémédiable, en même temps que le prix de la vie, l'humanité a élaboré toute une série de rites, proposé des représentations d'un possible au-delà qui varie selon les cultures, les traditions religieuses ou les écoles philosophiques. Dans toutes les sociétés, la séparation qu'implique la mort s'accompagne donc de rites, de gestes destinés à accompagner le mort dans sa nouvelle condition et en même temps à rassurer les vivants face au manque, face à l'angoisse que provoque la mort. Alors ça commence par l'accompagnement des mourants dans leurs derniers instants, suivi par le soin particulier accordé au corps sans vie, souvent réputé impur, et prolongé bien sûr par le rassemblement des vivants pour prendre congé de la personne qui n'est plus. Et je dirais que tout est entrepris pour assurer les meilleures conditions de départ du défunt vers sa nouvelle destinée. On évoque ses mérites, on a des prières, des formules consacrées, l'encens. Et en même temps, il s'agit d'attester que la vie continue pour les survivants. Et c'est traditionnellement le partage de la nourriture. Un des plus anciens rites funéraires qui nous soit parvenu est dans le fameux l'Iliade d'Homère, avec un formidable repas après la mort d'Hector. Je crois que ça dit quelque chose de fondamental sur l'humanité. En tout cas, un point sur lequel on peut être d'accord, c'est que l'humanité se distingue de l'animalité par le souci qu'elle a de ce qu'il advient du corps condamné à disparaître. Les deux manières les plus répandues de disposer du corps sont d'une part l'inhumation, qui restitue le corps à la terre par la putréfaction et la crémation, l'incinération qui le réduit en cendres par le feu, cendres qui sont dispersées dans la nature ou au contraire conservées dans une urne. Il existe toutefois d'autres pratiques telles que l'exposition du corps aux rapaces, notamment le cas chez les zoroastriens et les bouddhistes tibétains, ou encore l'embaumement. On pourrait parler de sa version moderne qui est la cryogénisation destinée à conserver le corps intact. Mais dans bon nombre de traditions, la mort physique est suivie d'un état transitoire qui peut durer de quelques heures pendant lesquelles l'âme se sépare du corps, et pensez aux expériences aux confins de la mort, jusqu'à 49 jours pour les bouddhistes, ou encore le temps du séjour dans la tombe. Pour les uns, c'est un état où les morts peuvent interférer avec les vivants, bénéficier de leur attention. Pour d'autres, parfois d'ailleurs aussi pour les mêmes, c'est une épreuve de vérité, marquée par un jugement individuel, automatique pour certains ou présidé par une divinité, destiné à une première séparation entre les justes et les injustes, pour faire bref. Et il existe ce qu'on appelle les livres des morts, on pense bien sûr au livre des morts égyptiens, au livre des morts tibétains, qui sont en réalité de véritables guides pour conduire le défunt sur le chemin de la purification qui doit lui permettre d'accéder à l'au-delà. Confronté à la mortalité inéluctable du corps privé du souffle de vie, l'humanité a cherché dans ce souffle un élément de survie, sinon d'immortalité. Là aussi, selon des modalités différentes, les âmes ou les esprits anonymes qui survivent coupés des vivants dans un monde souterrain. Les ancêtres ou les esprits personnalisés qui continuent à mener une vie parfois comparable à celle qu'ils ont menée sur cette terre. Et aussi susceptibles d'interférer, parfois de troubler les vivants, ou de leur venir en aide selon les circonstances. Autre mode de représentation, la réincarnation ou les réincarnations successives, une sorte de principe éternel qui passe d'un corps à l'autre, ou renaissance après désagrégation du corps physique. Enfin, résurrection de l'âme et ou du corps après une mort qui est assimilée à une forme de sommeil, en particulier dans le monothéisme, que ce soit celui de Zoroastre, des Juifs, des Chrétiens ou des Musulmans. Encore un élément important dans cette typologie un peu rapide, c'est au fond la commémoration ou parfois la vénération des défunts. Hein, face à l'oubli qui menace les disparus, comme le nom même de disparu l'indique, hein, la réponse de nombre de sociétés humaines est l'évocation des morts, principalement sous deux formes, la commémoration et l'invocation. La commémoration, elle peut avoir lieu dans l'espace, c'est les fameuses pierres tombales, nos cimetières, mais aussi les monuments plus ou moins célèbres, hein, pensons aux pyramides, un certain nombre de tombeaux monumentaux, au Panthéon, hein, c'est aussi une manière de commémorer, mais aussi commémorer dans le temps, avec les anniversaires, les fêtes des morts, le carnaval, qui ont toujours quelque chose à voir avec les morts. Le culte des morts est probablement l'une des pratiques religieuses les plus universellement répandues. Et toujours avec ce double souci de garantir la paix des morts, aussi bien, je dirais, que celle des vivants. Dans les sociétés convaincues d'une survie après la mort. Et puis, bien sûr, se pose la question de la fin ultime, de la destinée dernière. Et là, les représentations, on le comprend aisément, sont directement liées aux différentes perceptions du monde. En Égypte ou en Chine, pour des exemples, le défunt rejoint le monde divin, où il mène une existence heureuse, je dirais libérée de tout souci. Pour les adeptes d'un Dieu créateur, la fin de l'histoire est au programme, et marquée par les bouleversements du monde, souvent retour ou venue d'un sauveur, l'instauration d'un jugement dernier, cette fois jugement universel, avec à la clé les joies du paradis pour les uns, l'exclusion dans les enfers pour les autres. Pour les partisans d'une éternité du monde, ou d'un monde qui se renouvelle constamment, la fin dernière, c'est la libération sans retour de ce cycle des réincarnations, des renaissances. Là aussi, pour s'unir, alors les hindous diront s'unir au Brahman, hein, l'entité, la seule réalité, ou pour se fondre dans le nirvana, pour prendre l'expression des bouddhistes. Essayons à partir de ce premier tour d'horizon un peu général, sur lequel on pourra revenir si vous le souhaitez, de nous approcher maintenant de manière plus spécifique de ces rituels, de ces réactions et actions par rapport à ce passage de la vie à la mort. Pour les hindous, il s'agit donc, c'est mon premier exemple, de sortir de ce cycle des renaissances. L'âme humaine, ou le soi, Atman, est au fond un principe permanent qui est fondamentalement identique à la réalité ultime, ce fameux Brahman. Donc, l'Atman se trouve provisoirement séparé. Et sa destinée est fixée par ce qu'on appelle le karma, c'est-à-dire le fruit des actions, bonnes ou mauvaises, qui maintient l'Atman dans le cycle des renaissances, plus ou moins heureuse en fonction de ses différents actes. Et c'est donc l'accumulation d'un bon karma qui peut permettre à l'Atman d'échapper à ce cycle et de rejoindre l'éternité du Brahman. Alors oui, la mort est une étape décisive, car les derniers instants de la vie peuvent orienter la suite de l'existence, notamment par la récitation d'un mantra ou invocation sacrée. Sitôt après la mort, dans la conception hindoue, l'Atman rôde autour du corps qu'il a habité. Le corps alors est baigné, revêtu de blanc ou parfois de rouge pour les femmes. Il est couvert de fleurs avant d'être porté en convoi funèbre sur un bûcher orienté vers le sud où il sera brûlé. À l'exception des bébés et de ceux qu'on appelle les sannyasins, ceux qui ont renoncé à la vie mondaine et qui sont traditionnellement inhumés. Définitivement, dès lors séparé du corps, l'Atman devient une sorte de fantôme qui a besoin des prières, mais aussi des offrandes, afin de franchir les épreuves durant l'année qui suit, là ça peut durer une année, jusqu'au moment où il rejoint le pays des morts, où il est jugé par le dieu Yama. Pratiquement, les cendres, elles, sont jetées dans le fleuve, alors que ce qui reste des os sont recueillis pour être lavé dans l'eau du fleuve, déposé dans une jarre et enterré dans un cimetière. Scénario assez semblable, mais sur un fond différent dans le cadre de la tradition bouddhiste. En effet, l'une des affirmations fondamentales du bouddhisme, au contraire de l'hindouisme, issu, vous le savez bien, c'est l'affirmation qu'il n'y a pas d'âme personnelle. Les bouddhistes considèrent que, au fond, la vie est un agrégat, un ensemble d'éléments qui tiennent ensemble et qui, au moment de la mort, littéralement, se désagrègent. Et là aussi, le moment est très important pour déterminer ce qui sera une renaissance heureuse ou malheureuse. Une renaissance dans le monde des enfers, des esprits affamés ou des animaux, ou au contraire, dans le monde des humains, voire le monde des dieux, il n'y a pas moins de 6 possibilités dans la tradition hindoue. Mais le but espéré, au bout du compte, c'est là aussi la libération sans retour. Le nirvana, c'est littéralement l'extinction. On arrête de mettre de l'alimentation. Cette alimentation, c'est de nouveau le karma, le poids des actes qui entraîne le retour à la vie aussi longtemps que tout n'est pas consumé. Dans la tradition bouddhiste, on peut avoir l'appui du Bouddha lui-même, en particulier dans le bouddhisme du Nord, où il y a plusieurs Bouddhas dans des mondes différents, ou alors la figure de celui qu'on appelle le Bodhisattva, au fond un candidat Bouddha qui renonce à entrer lui-même dans le Nirvana pour entraîner avec lui les fidèles du Bouddha. Et donc ce processus de désagrégation commence avec l'agonie, et là tout est fait pour assurer la sérénité du mourant. Le corps est placé sur le côté, exactement comme un certain nombre de représentations du Bouddha lui-même, et on invite des moines à réciter des sutras, à prononcer des bénédictions pendant les 2 ou 3 jours qui suivent le décès. Et cela pour éviter une renaissance défavorable pendant ce processus de dissolution de la conscience. Et donc, la crémation intervient en principe après 3 jours et elle est accompagnée d'un rituel à la fois de purification et d'offrande. J'ai fait allusion déjà au livre des morts, le Bardo Todol des Tibétains, qui est récité à cette occasion-là et pendant les 49 jours qui suivent le décès, afin de donner, mais comme un guide touristique, véritablement les instructions, les indications à cette âme en voie, cette conscience en voie de dissolution, afin que dans cet état intermédiaire, elle fasse les choix qui lui sont favorables. Un petit peu encore plus à l'est, si j'ose dire, si on va dans le monde chinois, la destinée outre-tombe implique aussi un jugement qui veut dire l'enfer pour les uns, souvent un séjour indéterminé dans un monde régi par des fonctionnaires qui est une sorte de reflet, des fonctionnaires chinois qui sont bien connus, alors que pour d'autres il y a au fond l'idée de réincarnation, notamment sous l'influence de la tradition bouddhiste. Mais la réincarnation n'est pas immédiate, et là aussi, pendant quelques jours au moins, le défunt rôde autour des vivants comme un fantôme. Et dans tous les cas, dans la tradition chinoise, la vénération des défunts est destinée à assurer une situation confortable dans l'au-delà, voire une réincarnation qui soit favorable, en même temps qu'à protéger les vivants d'un retour intempestif. Et une des grandes fêtes chinoises, toute tradition religieuse confondue, intervient au milieu du septième mois de l'année, pendant laquelle on organise des grands repas avec la conviction que les esprits des morts viennent se nourrir et vont pouvoir repartir satisfaits et laisser les vivants tranquilles pendant l'année qui vient. Le courant de Confucius, on est toujours dans ce monde chinois, a toujours enseigné le respect des rites, et en particulier le respect des rites dus aux ancêtres, et a consigné ses prescriptions dans d'importants ouvrages classiques transmis de génération en génération. Et là aussi, le but fondamental est le même, les meilleures conditions pour les défunts et la stabilité garantie pour les vivants. La tradition taoïste, et je traiterai après avec les Chinois, elle se présente ouvertement comme une quête d'immortalité. Immortalité auquel on aspire par un travail sur soi-même, aussi par un certain nombre de pratiques, que ce soit la gymnastique, que ce soit au niveau du régime diététique, un certain nombre d'exercices spirituels, et aussi l'alchimie, dans l'espoir que les plus grands saints taoïstes ont effectivement accédé à cette immortalité. Changeons, si vous êtes d'accord, de cadre culturel pour venir plus près de nous, notamment dans la tradition juive, où la mort n'est pas la fin de la vie. Si bien sûr le corps revient à la poussière, l'âme, elle, retourne à son créateur, après n'avoir été qu'un séjour d'ombre et de ténèbres, lorsqu'on parlait du Sheol. Au fond, l'au-delà est devenu, dans l'enseignement des rabbins, le lieu de la résurrection, où parfois on parle de l'immortalité, l'inauguration d'un temps dernier, inauguré par la venue du Messie. Et les proches assistent le mourant avec la récitation de psaumes et de prières. Là aussi, le corps du défunt est lavé en signe de purification, il est veillé. On allume volontiers une bougie en signe de l'immortalité près de la tête. Et la famille accompagne avec les proches le défunt, entouré dans son linceul, qui est souvent le châle de prière de la personne qui va être enterrée, l'incinération étant traditionnellement interdite. Enterré dans un cimetière normalement réservé aux Juifs, et là le rabbin prononce une oraison funèbre, et tout le monde se retrouve pour un repas, souvent un repas léger, qui est l'indication que oui, la vie continue. Alors plus tard, une pierre sera posée sur la tombe avec une inscription, la commémoration dont on a parlé. Pour les proches, ça veut dire père et mère, les frères et sœurs, fils et filles, l'époux, l'épouse, Le deuil débute par une semaine sans activité, suivie traditionnellement d'un mois sans réjouissance, et qui s'achève au bout d'une année par une nouvelle cérémonie au cimetière. Un mot peut-être sur une tradition moins connue, mais qui a joué un rôle important, c'est celle des Zoroastriens. Avec l'idée de sa séparation du corps, considéré comme impur, par rapport à l'âme, regardée comme immortelle. Pour Zoroastre, donc pour la tradition persane, mais qui ne sera pas sans influencer le judaïsme d'abord et par voie de conséquence le christianisme, la vie est un don et la mort est l'œuvre du mal, l'esprit du mal. Et les Zoroastriens croient à l'immortalité de l'âme, du principe vital, et ont cette représentation d'un pont que l'âme doit franchir, véritable pont de triage, dont on tombe parce qu'il est très étroit si l'âme pèse lourd par les injustices qui ont été commises, ou au contraire peut atteindre le paradis. Et puis on imagine un espace entre deux pour ceux dont les bonnes actions contrebalancent les mauvaises actions. Et la fin des temps sera marquée par la manifestation d'un sauveur et d'un libérateur qui va régénérer le monde et entraîner une résurrection générale. Alors les proches d'un mourant l'assistent, là aussi en récitant des prières et notamment de repentance, pour encourager cette séparation entre le souffle, le principe vital, la da'ina, et le corps marqué par la mort. Le corps qui est lavé, là aussi étendu dans un linceul blanc, je donne un peu ces indications pour montrer les points de contact, mais un corps jugé impur, d'où la tradition qui a longtemps prévalu, qui consistait à exposer les corps pour que les rapaces, en particulier les vautours, viennent à bout et qu'ils ne polluent pas la terre. Évidemment, pratique qui existe encore de manière minoritaire aujourd'hui en Inde, interdite en Iran, qui est le pays d'origine de cette tradition mazdéenne, et puis difficilement réalisable, vous pouvez l'imaginer, en Occident. Dans ce tour d'horizon, on va aussi parler des chrétiens, chrétiens pour lesquels la mort est abordée, je dirais, à la lumière de la résurrection de Jésus à Pâques. De fait, la mort a longtemps occupé une place centrale dans la piété, notamment occidentale, et a donné lieu à de multiples représentations où, je dirais, la peur l'emportait largement sur la confiance. Aujourd'hui, vous le savez, les proches accompagnent le mourant, on a recours à la participation d'un prêtre, dans le cadre de la tradition catholique, ou d'un proche, d'un pasteur, ou aussi d'un prêtre orthodoxe, dans la mesure où on prépare le mort ou le mourant à franchir ce cap décisif. En principe, l'office religieux a lieu après 3 jours, et là aussi on a prière, cierge, eau bénite, encens, destiné à aider le défunt à s'ouvrir à Dieu et en même temps à consoler celles et ceux qui restent. Traditionnellement, la cérémonie se conclut par un dernier adieu, à la suite duquel tous les participants pour un signe de croix dans la tradition catholique. À noter que depuis Vatican II, les catholiques ont le choix entre l'inhumation et l'incinération. Et dans l'attente de la résurrection finale, corps et âme, ici spécifiquement dans la tradition catholique, connaissent trois lieux, ou peut-être faudrait-il mieux dire trois états, le repos paisible, l'âme séparée de Dieu et le purgatoire. Et les vivants accompagnent les défunts par des commémorations et des prières, y compris la Vierge Marie et aux saints qui les ont précédés dans la mort. Et la Toussaint demeure une fête majeure qui, dans l'esprit de beaucoup, se confond avec la fête des morts, où l'on fleurit les cimetières. Signe de l'importance et de cette dimension populaire de la tradition vis-à-vis de la mort et de l'au-delà. Pour la tradition orthodoxe, la mort est fondamentalement naissance à une vie nouvelle pour l'âme qui doit se séparer du corps. Et les pères de l'Église en particulier distinguent très clairement entre l'agonie de la personne qui reste attachée à la vie ici-bas et ce qu'ils appellent l'endormissement ou la dormition de celui ou de celle, et particulièrement de la Vierge, qui fait son retour confiant à Dieu. Là aussi, la famille autour du mourant allume des bougies, le prêtre récite des prières, verse l'huile consacrée sur le malade. L'enterrement, après trois jours, marque la première étape dans cette séparation du corps et de l'âme, et le chemin spirituel qui doit accompagner l'âme du troisième au neuvième jour, c'est l'ascension qui va l'éloigner de ce monde et des forces du mal, alors que du 9e au 40e jour, c'est l'entrée dans l'autre monde, au terme duquel il y a un premier jugement qui sépare les justes des pécheurs. Ça veut dire que les âmes continuent à vivre par-delà la mort, et donc la communion n'est pas rompue entre les vivants et les morts, qui prient les uns pour les autres, jusqu'au jugement dernier, qui lui sera présidé par le Christ et inauguré par la résurrection des corps spirituels pour le paradis ou pour l'enfer. Les protestants, il faut aussi dire un mot des protestants, considèrent généralement que l'être disparu est endormi auprès de Dieu, dans l'attente de la résurrection finale et du jugement dernier qui scellera le destin de tous les êtres qui ont vécu. Les représentations bibliques de résurrection des corps et de jugement des bons et des méchants sont interprétées littéralement par les uns, spirituellement par les autres, et certains courants, citer le cas des adventistes, on peut pouvoir fixer la date du retour du Christ, et donc compte à rebours avec le règne des mille ans qui doit précéder le jugement dernier. Dernière communauté dont je voudrais dire un mot, ce sont les musulmans, pour qui, très clairement, Dieu est celui qui fait vivre et mourir. Et donc la mort n'est qu'une étape dans l'existence humaine. Le séjour des morts dans la tombe est un état transitoire, agréable pour les uns, pénible pour les autres, en fonction de la foi et des actes du défunt, qui est interrogé par deux anges, Munkar et Nakir. À la fin des temps, la résurrection générale marque le jour du jugement dernier, qui destine les uns aux peines de l'enfer et les autres à la vie éternelle dans le paradis qu'on appelle le jardin des délices. Le mourant ou un proche doit réciter la confession de foi dans cette même perspective de purification et d'avoir comme seule préoccupation le Dieu créateur. Et après le passage de l'ange de la mort, le corps du défunt est lavé à trois reprises, enveloppé dans un linceul, pour être emporté au cimetière, traditionnellement, le plus rapidement possible. Et traditionnellement, l'inhumation se fait à même la terre, dans une fosse assez profonde, où le corps allongé doit être orienté vers la Mecque, de manière à ce que, au jour de la résurrection, son regard soit directement tourné vers la Kaaba, vers le centre de la foi islamique. Et l'imam accompagne avec les proches par des prières et la récitation, notamment de la sourate Yassine, sourate 36, ces derniers gestes, où il est expressément demandé que l'on soit discret dans les lamentations. Le deuil, lui, dure 4 mois et 10 jours, en particulier pour la veuve, et donc la visite au cimetière a lieu le 40e jour, puis de préférence les jours de fêtes religieuses, de commémoration, et selon les coutumes, une pierre est posée, plus ou moins discrète, avec ou sans le nom de la personne dont on parle, en tenant compte du fait que le lieu même où elle est déposée est un lieu inamovible, qu'on ne peut plus toucher. Voilà, ce tour d'horizon un peu, alors je le dis tout de suite, partiel, qui me permet d'arriver à ma troisième, et ce sera ma dernière partie, sur les représentations de l'au-delà. Je disais en introduction qu'au fond, il y a fondamentalement, me semble-t-il, mais on pourra en discuter, 4 représentations essentielles de ce monde après la mort. La première représentation, c'est ce que j'ai appelé le pays des ombres. On pourrait parler du pays des spectres ou du pays des fantômes, dans la mesure où, alors les âmes, si on veut le principe vital, survivent bel et bien à la mort, mais dans un lieu souterrain, dans un lieu souvent privé de lumière, comme le Sheol, dans le cas de la Bible hébraïque, ou au fond elle-même une existence morne, et triste, je dirais totalement coupé du monde des vivants, aussi bien d'ailleurs que de la divinité. Hormis parfois où il y a le dieu destiné spécifiquement aux morts, j'ai parlé de Yama dans le cas de l'hindouisme, on pourrait aussi parler de Hadès ou de Pluton. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une punition, mais d'une destinée naturelle de l'humanité dont le sort n'est guère enviable. On connaît la fameuse remarque de Achille à Ulysse, mieux vaut être le dernier des petits cordonniers sur terre que le grand Achille dans les enfers. Les cordonniers, rappelons-le, étaient un métier traditionnellement méprisé. Voilà une vision qu'on trouve chez les Hébreux, qu'on trouve en Mésopotamie, chez les Grecs aussi, chez les Chinois et dans bon nombre d'autres cultures. Pas grand-chose à dire de ce monde-là, à la différence, c'est le deuxième exemple que je voulais citer, ce qu'on peut appeler positivement, alors cette fois, le pays des morts. Un pays qui souvent est localisé au-delà de la montagne, au-delà du fleuve, et donc en fait relativement accessible, sinon à tout le monde, du moins aux initiés. Et l'élément décisif dans ces représentations de ce pays des morts est un peu l'effet miroir, car dans sa structure, il ressemble étrangement au pays des vivants. Et surtout, il est important de gérer la communication qui existe entre le pays des vivants et le pays des morts. Et donc, effectivement, on s'imagine que les morts y mènent une vie comparable à ce que l'on connaît sur cette terre ou dans ce pays, et donc qu'il est possible de communiquer avec eux. Il n'est d'ailleurs pas non plus exclu qu'ils reviennent dans la société dans certaines circonstances particulières. Aussi convient-il de s'assurer de leurs bonnes intentions. En effet, ils peuvent intervenir à certains moments clés pour rétablir la justice, pour mettre un terme à un fléau, mais ils peuvent aussi intervenir au détriment des vivants dès lors qu'on les aurait quelque peu négligés, que les vivants auraient oublié leur devoir. Ici, en général, il n'y a pas de jugement. Mais les fauteurs invétérés, je dirais, sont un peu exclus de cette société pour être oubliés, voire annihilés. Alors que, à l'inverse, ceux qui ont mené une vie exemplaire vont accéder au rang d'ancêtres vénérés qui feront l'objet, sinon d'un culte, du moins d'une commémoration nominale. On trouve ce type de représentation dans bon nombre de sociétés traditionnelles sans écriture, de type chamanique, hein, aussi bien en Afrique qu'en Amérique ou en Asie. Ainsi, je dirais, dans les traditions africaines, l'au-delà est toujours connecté à l'ici-bas. Il n'y a pas de véritable séparation entre le monde des ancêtres, des génies ou des divinités, et le monde de tous les jours. Et donc, lorsque surgit un accident, une maladie, une sécheresse, hein, c'est tout naturellement qu'on va se tourner vers le monde des ancêtres pour chercher la cause et par là même le remède en ayant recours aux chamans ou aux sorciers dont l'une des caractéristiques est précisément de pouvoir passer d'un monde à l'autre, de pouvoir transmettre un message, que ce soit le message des vivants à l'endroit des morts qu'il s'agit d'apaiser ou le message des morts à l'égard des vivants qui ont besoin d'être orientés sur le comportement adopté. Et d'une certaine manière, on peut dire que les morts ne sont pas morts, mais vivent ailleurs, dans un monde certes invisible, mais pas inaccessible. J'ai déjà fait allusion à la Chine, et je dirais que ce monde des ancêtres en Chine demeure très vivant jusqu'à aujourd'hui. Et de fait, les morts peuvent intervenir en tout temps et souvent, malheureusement, pour troubler l'harmonie des vivants, d'où la nécessité d'organiser des fêtes, de canaliser leurs demandes et de satisfaire à leurs besoins, en particulier de communion. Et ça, aussi bien par les invocations, la présence d'un petit autel dans les différentes demeures, et puis les repas qui sont encore la meilleure manière de satisfaire le besoin des morts que ce soit les papilles, que ce soit l'odorat qui les assure d'une paix qu'ils laissent aux vivants. Dans la tradition chinoise, la plupart des humains qui ne sont ni totalement bons ni totalement mauvais retournent dans le cycle des renaissances. On a là deux représentations qui se recoupent. Alors pour les grands criminels et en particulier pour les suicidés, on doit passer par une série de lieux infernaux comme une sorte de purification, de purgatoire, avant, j'allais dire, de rentrer dans le cycle. Il y a donc des enfers, et les enfers sont terribles, avec leur description de feu ou de glace, de peau écorchée, de bêtes sauvages, et mille et une représentations, qui, dans la tradition chinoise, ne dure jamais plus, mais c'est déjà pas mal, vous me direz, que deux ans et demi au maximum. Il faut dire que sous l'influence du bouddhisme, les taoïstes, au fond, ont développé l'idée de ce retour à la vie, d'une chance nouvelle qui est donnée, au moins pour ceux qui survivent à cette épreuve redoutable. Inversement, ceux qui ont accédé au monde des morts dans une situation confortable ne sont pas nécessairement les mieux lotis dans la mesure où, tôt ou tard, ils n'échapperont pas à un retour sur Terre pour, là aussi, échapper à ce cycle des renaissances. Et ça m'amène au troisième scénario, qui est donc celui de la délivrance dernière sur ce fond de renaissance, de cette âme ou de cette force vitale qui est soumise à la loi de cause à effet et qui survit au corps matériel et porte avec elle le poids du passé. C'est vrai dans la tradition hindoue, c'est vrai dans la tradition bouddhiste, et vous avez probablement vu ces représentations de ce que dans le bouddhisme on appelle la roue de la vie, où vous avez un grand cercle avec les différentes phases de la vie humaine. Au cœur, le moyau de cette vie, c'est les tentations que sont l'illusion du moi, que sont le besoin de faire du mal ou d'être attiré, et donc le contraire de la libération à laquelle on aspire. Et puis tout autour, les différentes étapes d'une vie qui conduit de la mort à la renaissance. Mais aussi, vous avez ces six sections qui sont les états dans lesquels l'être humain va se dissoudre avant de renaître, soit dans le niveau des enfers, la partie inférieure, les esprits affamés, hein, pour ceux qui étaient un peu avaricieux et qui aimaient bien l'argent. On va les mettre chez les esprits affamés qui ne sont jamais satisfaits. Et puis, bien sûr, il y a le monde le plus bas. Même le monde des dieux peut être là aussi illusoire, dans la mesure où les dieux eux-mêmes doivent passer par le cycle des renaissances, puisque la finalité dernière, c'est la libération de ce samsara, de cette loi constante du retour. Être moine dans la tradition bouddhiste ou être sannyasin dans la tradition hindoue est le meilleur moyen, si j'ose dire, de s'assurer d'échapper à ce cycle des renaissances qui n'est jamais, il faut le préciser, perçue en Orient comme une chance, mais bien plutôt comme une malédiction. Ce cycle des renaissances s'inscrit sur le fond d'un monde qui lui-même est en constante évolution, et dans la tradition hindoue, les dieux eux-mêmes et le monde qu'ils ont créé passent par un cycle de désagrégation, de disparition et de renaissance. On est donc sur un fond complet d'impermanence et l'espoir, encore une fois, auquel on accède par les rituels auxquels j'ai fait référence, mais aussi par une pratique durant toute la vie de désengagement et de méditation et l'assurance de l'accès à cette libération. Libération, c'est probablement le meilleur mot, moksha en sanskrit, nirvana en sanskrit aussi, ou pali dans la tradition bouddhiste, et au fond, ce à quoi on aspire en dernier ressort. Il n'y a pas à proprement parler de jugement, ou s'il y a un jugement, il se fait de manière quasi automatique, et cela à la différence du quatrième scénario, et c'est celui sur lequel, avec lequel je terminerai, qui est la représentation du paradis et de l'enfer, le paradis étant revêtu de toutes les qualités imaginables, et à l'inverse, l'enfer étant le lieu de toutes les malédictions possibles. Ce message s'est progressivement répandu dans l'Occident, probablement à l'origine influencé par cette tradition zoroastrienne, relayée dans la tradition juive, chrétienne et bouddhiste et musulmane. Et l'exemple classique, c'est évidemment la représentation du paradis, qui est une sorte d'image de l'oasis, le contraire du désert, où on a à disposition tout ce qui manque dans la vie quotidienne, dans la vie difficile des nomades qui doivent traverser une terre hostile. Le paradis et l'enfer s'articulent autour de la notion d'un jugement dans lequel est impliquée à la fois la responsabilité des vivants, mais aussi la générosité, la miséricorde ou la grâce de celui qui juge. Il y a là un rapport qui est établi à la fois entre un élément, j'allais dire, de justice quasi humaine, distributive, chacun reçoit ce qu'il mérite, et puis en même temps, il y a une surabondance, une générosité qui est donnée grâce à ce juge qui va au-delà des simples prescriptions légales, si on veut utiliser cette image. Ces représentations, aujourd'hui, sont remises en cause par une large couche de la population. Probablement, nous sommes à une étape dans notre société, que ce soit dans la manière d'accompagner les mourants, dans le rituel, que ce soit dans le message qui est transmis, et qui s'inscrit sur ce fond quasi universel, c'est un peu l'un des sens du parcours que je vous ai proposé, hein, d'un au-delà de la mort, dont on a vu qu'il peut prendre des formes variées. Au-delà d'une mort qui demeure un impensable, hein, vous ne pouvez pas penser la mort que dans la mesure où elle remplit une autre vie. C'est aussi les limites de notre monde de représentation. Nous sortons de représentations souvent très anthropomorphiques, hein, de formulations qui, au fond, extrapolent des notions, des expériences que nous pouvons avoir dans la vie humaine et que l'on inscrit dans un au-delà ou une éternité qui est très souvent perçue comme du temps qui dure longtemps. Et comme le dit très bien le théologien et aussi maître spirituel catholique Maurice Zindel, il ne s'agit pas de connaître le lieu où nous irons après la mort, il s'agit aucunement d'un après dans le temps ou dans l'espace, il s'agit d'un au-delà qui est au-dedans. Et je crois que l'humanité, à travers ses traditions, s'est efforcée et continue de s'efforcer de dire quelque chose de cet indicible, de le représenter dans cette intériorité, dans une extériorité. Je vous remercie de votre patience et de votre attention.
Merci au pasteur Jean-Claude Basset de nous avoir parlé assez simplement de choses horriblement compliquées. Alors, voilà maintenant le moment des questions. Mon fil ne va pas jusqu'au bout de la salle, donc il y aura encore une injustice. Vous voyez, on vit dans un monde d'injustice. Je vais voir jusqu'où je peux aller. Voilà, je suis à peu près au bout. Donc, pour les premiers, ben, le micro ira jusqu'à eux, et pour les derniers, qui seront un jour les premiers, vous savez bien, ça sera à eux de venir jusqu'au micro. Alors, qui est-ce qui se lance pour la première question? Et c'est toujours difficile, la première question. Après, c'est dur de les arrêter. Merci, Charlotte.
Voilà, j'ai retenu beaucoup de choses, mais parmi tout ce que j'ai appris ce soir, vous disiez au départ que finalement, tout ce qui était culte autour des morts, prière aux morts, rite autour des morts, c'était à peu près généralisé. Au niveau universel, alors ma confession protestante ne peut pas s'empêcher de réagir et vous dire, ben, finalement, est-ce que le monde protestant est là une exception puisque nous n'avons pas de rite autour des morts, de prière aux morts, et que même nos services à l'occasion d'un décès ne sont pas des services pour les morts mais pour les vivants. Est-ce qu'on est vraiment un petit point dans le...
Alors je crois qu'effectivement il y a un élément d'exception dans cette tradition protestante qui font une réaction à une place qui était donnée aux morts et à un certain nombre de représentations, mais n'oublions pas que Luther lui-même a été animé par la peur de la mort. Hein, par contre, au niveau des représentations, il y a une sorte d'ascèse, probablement très protestante, dans le dire, les descriptions de l'au-delà. Néanmoins, si on réfléchit, regarde un peu de l'historien des religions, il y a une certaine persistance intéressante. Certes, on ne prie pas les morts, ou pour les morts, on les remet en confiance à Dieu, mais si on regarde bien dans le déroulement, en tout cas dans un certain nombre d'églises de tradition protestante, on va évoquer les mérites du mort. On va avoir, on rend les derniers hommages, font partie de notre vocabulaire. Donc c'est pas simplement un adieu, je te remets dans la confiance, bien sûr que c'est là, mais il y a quelque chose de ce fond d'humanité qui n'a pas totalement disparu.
Autre question ? Alors, je crois qu'il faut que vous veniez un petit peu vers moi.
Peut-être que vous reprécisiez la dernière citation que vous avez citée, que vous l'écrivez un petit peu. Voilà.
La citation de Maurice Zindel.
J'ai choisi cette citation parce qu'elle me semble assez bien révéler la situation dans laquelle on se trouve. Dans tout mon exposé et les recherches qu'on peut mener sur l'attitude, les pratiques à l'égard, enfin, ce rapport entre la vie et la mort, on est très souvent dans un rapport, que je vais dire rapidement, d'extériorité. C'est-à-dire, on est un monde de représentation, probablement pour surmonter une angoisse latente. Il n'y a rien de tel que de la projeter, ce qui permet de survivre avec ce qui reste quand même une question fondamentale qu'on ne peut pas maîtriser. Et dans notre société où ce monde des représentations est largement remis en question, et où pendant un temps on a essayé purement et simplement de ne plus parler de la mort, de la mettre de côté, à l'inverse évidemment de ce qu'on peut observer dans nombre de cultures, il me paraissait intéressant de mentionner au fond ce rapport entre l'intériorité et l'extériorité. Et que ce qu'on exprime de manière toujours imparfaite, c'est pas lorsque je dis l'éternité. Je parle évidemment de quelque chose que par définition je ne maîtrise pas, mais je ne comprends même pas. Sinon que, ben c'est bien, vous connaissez la plaisanterie, l'éternité s'élance surtout vers la fin, c'est la limite de notre pensée. Et je pense sérieusement que la mort est de l'ordre de l'impensable. Et néanmoins, nous nous efforçons à la lumière de ce que nous pouvons percevoir, et alors aussi bien sur le plan culturel que des messages religieux, nous essayons de nous orienter dans ce cadre-là. Et je trouvais que cette réflexion de Maurice Zindel, qui nous invite non pas à un au-delà géographique ou dans l'espace ou dans le temps, mais à revenir, et que au fond c'est de la vie intérieure qu'il s'agit, rejoint quelque chose. On peut citer l'évangile de Jean sur la vie éternelle, qui n'est pas la vie qui est là-bas, au-delà, plus tard, etc., mais qui est maintenant, dès aujourd'hui. Donc voilà un petit peu le sens pour une réflexion, et peut-être un élément de réintégration de ce long catalogue, je m'en excuse, mais voilà, l'histoire de l'humanité est effectivement riche et complexe, mais une réflexion que chrétien peut mener sur ce questionnement qui, lui, nous est commun avec l'humanité.
Merci. Jean-Albert. Je ne peux m'empêcher de penser à l'anniversaire des 500 ans de Calvin, la naissance de Calvin, et je vais en profiter pour vous poser cette question. Calvin, Jean Calvin, à sa mort, a souhaité la discrétion, l'anonymat, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement où se trouve la tombe de Jean Calvin à Genève. Pouvez-vous m'expliquer cette discrétion, cette volonté de Calvin d'avoir choisi cet anonymat? Et deuxième question, pouvez-vous me dire, si vous le savez, où se trouve la tombe de Jean Calvin à Genève? C'est le scoop.
Alors effectivement, la référence à Jean Calvin, indépendamment du 500e anniversaire, est intéressante, hein, dans la mesure où Calvin s'est opposé au fond à tout ce qui est rituel et tout ce qui risque de faire obstacle. Vous savez que Jean Calvin n'était pas content parce que les gens venaient nombreux au culte à Noël, et il aurait voulu, bien naturellement, qu'on a tous tous les dimanches, mais le fait qu'il y ait une marque spéciale, pour lui était souvent, enfin il l'a dit ou écrit, perçu comme une sorte d'obstacle. Et il a compris tout son service, au fond, comme étant un service de Dieu, et qu'à aucun moment, d'ailleurs, le pasteur lui-même ne doit pas être un obstacle ou un intermédiaire entre le fidèle et Dieu. Et donc, un Calvin identifié avec,
pour nous, on est quand même en sortie du Moyen-Âge avec tout un culte autour des morts, perçu par lui comme un danger. D'ailleurs, de manière aussi très révélatrice, hein, il voulait que le service funèbre soit fait par les instituteurs. Hein. C'est l'instituteur qui devait conduire le service funèbre. Précisément, pour ne pas donner une espèce de caractère sacré, quand on se coupe d'un nom, je ne peux pas vous le dire, puisque, effectivement, là on rejoint hein, cet attachement atavique. Alors il y a une tombe, un plein palais où il y a Jean, et puis l'imagination a fait, alors de manière un peu très symbolique, récemment, une célèbre prostituée qui a été enterrée dans ce cimetière de plein palais, et on a titré prostituée enterré à côté de Jean Calvin, alors que non, je crois qu'on n'en sait rien. Et puis moi, je suis assez content qu'on n'en sache rien. Carmela.
Au fond, je m'étais promis de ne rien dire. Et je me demande le droit. C'est tellement sérieux, finalement, ce que vous le thème, de pouvoir raconter une histoire drôle. Mon père était pasteur, très mal, dans un village. Et en hiver, tout était vert glacé, il devait faire un enterrement. Il faisait venir la veuve. Comme il aime toujours parler avec les gens, le faire très personnellement. Il y avait d'abord à l'église et ensuite tout le village se transportait en dehors au cimetière. Le cercueil a été descendu en bas et mon père faisait comme dernier geste un pas vers la tombe pour encore dire une bénédiction. Malchance, c'était un morceau d'air glacé. Et il n'y avait qu'une seule chose pour lui, pour ne pas tomber dans la tombe, de faire un saut de l'autre côté. Il a réussi à ne pas rire, et je pense que beaucoup de gens aussi ont réussi. Peu de temps après, il y avait de nouveau un enterrement. Et là, il y avait de nouveau une veuve. Mon père parlait avec elle avant la cérémonie, pour les choses personnelles. Et au moment où elle devait partir pour se retrouver l'après-midi pour l'enterrement, mon père lui avait déjà dit au revoir. Elle se tourne vers mon père et lui disait, mon père demandait, il y a encore quelque chose? Oui, monsieur le pasteur. Je voudrais vous demander quelque chose. Et mon père, qu'est-ce que je peux encore faire? S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez aussi, au cimetière, sauter par-dessus la tombe de mon maman?
Merci. Autre question? Ici, je voudrais vous poser une question. Est-ce que dans votre connaissance élargie, on a pu en avoir un petit aperçu ce soir, il y a une différence dans la vie des gens en fonction de la religion à laquelle ils appartiennent? Est-ce qu'il y a une différence sensible dans les religions bouddhiques, dans les religions monothéistes, parce que quand on a compris que ça se ressemblait beaucoup, est-ce que cette manière de considérer la mort et ce qu'il y a après la mort change la vie des vivants de ces religions? Je vais répondre oui et non. Pourquoi? Parce qu'effectivement, une société qui vit, et je pense, il n'y a pas très longtemps, j'étais au Bénin et en dialogue avec des membres du Vaudou. Une société qui vit dans cet échange continuel entre les vivants et les morts a au fond une attitude beaucoup, j'allais dire moins tragique ou plus,
plus apaisé. En même temps, il y a ce souci constant, parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire à certains moments, puisque ça pourrait déranger cet équilibre toujours un peu difficile avec les morts. Mais il y a une sorte d'adhésion à la vie, globalement, une vie qui inclut, d'une certaine manière, l'autre face ou l'autre dimension. Donc ça c'est le oui. Évidemment, l'Occident va avoir une vue beaucoup plus tragique, hein, dans la mesure où il y a une seule vie, et puis où on va avoir des descriptions et des joies du paradis, mais aussi des peines de l'enfer, qui va peser d'un poids énorme à certains moments. Si je reprends un autre schéma, le schéma auquel j'ai fait référence avec les Chinois, là aussi on est, j'allais dire, dans un modèle intégré, où il faut se soucier des morts, mais où ils sont au fond, ils sont pas perçus, la mort n'est pas perçue comme en soi une menace, comme une négation, comme quelque chose qui pourrait dénigrer au fond toute valeur à la vie et conduire à une forme de désespoir et d'abandon. Cela dit, nous savons bien à quel point d'une personne à l'autre, dans une même tradition religieuse, on va avoir des gens pour qui l'échéance de la mort est au fond un rendez-vous quasi naturel. À l'inverse, pour d'autres, c'est une échéance intolérable qui va au fond saboter les fondements même de la vie. Alors oui, on est dans des tonalités différentes, mais mon expérience aussi de pasteur me montre que quel que soit l'enseignement exceptionnel des protestants ou le caractère quasi ascétique en ce qui concerne les représentations, ou l'affirmation massive de la grâce de Dieu, ça n'empêche pas que personnellement, individuellement, on va trouver des gens qui vont avoir des attitudes totalement opposées dans une même tradition. Donc il me semble qu'il faut tempérer les choses. Oui, la philosophie, le cadre dans lequel on s'inscrit a un rapport, hein, avec les représentations de la mort, et l'élément personnel individuel a aussi une influence. Un exemple, un des drames de notre société étant le suicide, alors que dans la société africaine, où il y a cet élément d'intégration, alors je ne dis pas que le suicide n'existe pas, mais ne revêt pas le caractère prégnant et interpellateur qu'il a dans notre société. Donc des éléments communs et ensuite aussi des sensibilités, des réactions personnelles face à ce que je continue à considérer comme un impensable auquel nous sommes tous personnellement confrontés.
Merci.
Pourriez-vous nous dire quelques mots sur cette accession au paradis d'Allah qui semble être puissamment motivée l'action terroriste du côté des musulmans islamistes?
J'essaie de repartir au départ. Probablement qu'une des premières mentions d'une résurrection intervient dans le livre des Maccabées et désigne au fond ces martyrs, ces gens qui sont morts dans leur fidélité à Dieu et que Dieu ne peut pas au fond abandonner, laisser indéfiniment dans la mort. Et on va avoir toute une tradition qui est aussi avec les martyrs chrétiens, où il y a une sorte de, alors qu'est-ce qu'il faut dire, de passage, d'ouverture, sinon de promesse de résurrection pour ceux qui payent de leur vie leur engagement. C'est un problème probablement en premier lieu de justice. Voilà, c'est un peu le cadre général avant que j'essaye pas d'échapper à la question, mais je crois que c'est important de le resituer dans le contexte. Et on sait par exemple que dans la tradition chrétienne, après la grande période des martyrs, on va voir se développer au fond toute la cèse et tout le monachisme comme une espèce d'alternative, dès lors que la voie des martyrs n'est plus celle qui est imposée évidemment par l'empereur, par l'empire. Dans le cas de l'islam, il y a aussi dans le Coran une promesse au fond pour ceux qui s'engagent dans, alors c'est le fameux djihad, c'est-à-dire le combat pour Dieu. Je mentionnais un certain de prescriptions de purification du corps. Dès le début, dans la tradition musulmane, celui qui meurt dans le combat pour Dieu n'a pas besoin des ablutions et au fond, il peut être enterré tel quel parce qu'il est déjà, en quelque sorte, il a déjà un pas en avant, une place auprès de Dieu. Et les juristes vont développer l'idée que dans le paradis, il y a une place plus proche de Dieu, où bon, les représentations vont varier, réservée à ceux qui n'ont pas essayé d'échapper à la confrontation, non pas qu'ils se sont suicidés, hein, il y a une condamnation claire et tout à fait univoque du suicide. Mais de ceux qui sont allés au combat et ont risqué leur vie pour défendre la cause de Dieu. Et donc à partir de là, on va avoir, alors c'est très compliqué parce que la pratique terroriste au fond, si on va remonter dans les origines, elle n'est pas islamique, soit dans un premier temps c'est dans le combat nationaliste des Palestiniens, où on a vu le recours au terrorisme, y compris aux attentats suicides, soit plus loin, on va penser bien sûr aux kamikazes japonais. Il se trouve qu'il y a une aile, et l'auteur c'est Seyed Khoud, qui est un Égyptien, qui au fond a développé cette idée que sur la base de ce message, que celui qui sans réserve se consacre à Dieu totalement et perd sa vie dans le combat est agréé par Dieu et va d'entrée au paradis, cette idée là va au fond trouver place chez un certain nombre de jeunes en particulier qui vivent dans des conditions difficiles et se dire mais la meilleure manière d'avoir, j'allais dire première place, l'image n'est pas bonne, mais une place assurée au paradis, une voie directe, et notamment celle qui échappe, j'ai fait rapidement allusion à cette épreuve de la tombe, hein, dans la conscience musulmane, il faut se présenter devant ces deux anges, et puis si on remplit pas les conditions, et qui remplit véritablement les conditions devant Dieu, ben, il y a un temps d'épreuve. Au fond, le martyr, celui qui a donné sa vie, est directement agréé par Dieu. Et donc on a une dérive de cet enseignement dans le cadre des attentats suicides. Par rapport à la tradition islamique, c'est véritablement une dérive, mais j'essaie d'expliquer un petit peu les racines, qu'est-ce qui peut la nourrir.
Françoise.
Que pensez-vous du remuement des morts à Madagascar et où vous placez cette tradition ?
Voilà, donc la question porte sur une pratique culturelle traditionnelle malgache où au fond
un mort, et en particulier, c'est pas vrai pour tous les morts, mais un certain nombre de morts relativement importants, font l'objet, il y a toute une fête qui est célébrée, et on ressort le corps, et effectivement, on le retourne, donc le retournement des morts. Alors, pour moi, typiquement, c'est dans cette interaction entre ce monde des morts et le monde des vivants. Hein. Et le retournement des morts, c'est une fête importante, populaire. Alors, en l'occurrence, ici, je vous posais la question sur l'ascétisme protestant, ben, il ne résiste pas face à cette pratique culturelle. Hein. Parce que, à l'arrière-plan, c'est cette interaction, on est dans le cas, le deuxième cas manifestement, hein, entre le monde des vivants et le monde des morts. Le monde des vivants a des devoirs à l'égard du monde des morts, qui compte là-dessus parce que c'est une manière de réactualiser, ça se fait dans le cadre d'une fête, donc on va réouvrir la tombe, il y a tout un rituel qui est fait, et la communauté dans son ensemble a la conviction d'avoir accompli ce qu'elle doit faire pour que les choses continuent à être comme elles doivent être. Alors c'est intéressant votre question parce qu'on a à Madagascar une sorte de superposition entre le message chrétien, qui à ma connaissance ne comporte pas d'encouragement à retourner les morts, à les ressortir de leur tombe, hein, et en même temps une culture locale qui est profondément enracinée. Alors certains vont tenter de christianiser cette pratique, d'autres vont s'opposer frontalement, bon, souvent les protestants commencent par s'opposer frontalement, puis après, voilà, il y a un mouvement, puis il faut suivre un peu le mouvement, mais je crois que c'est un bon exemple que vous donnez d'une pratique qui montre ce lien étroit que notre société occidentale a perdu. Si on voulait chercher des points de contact, il faudrait remonter au moins au Moyen-Âge. Hein. Mais on est dans une conviction, notre rationalisme, notre organisation de la société et du monde fait que les morts sont morts et les vivants sont vivants. C'est pas comme ça à Madagascar, et jusqu'à aujourd'hui, et probablement encore pour un certain nombre d'années. Mais vous-même, vous avez une expérience, si vous posez cette question, parce que on vous a dit que vous pouviez poser des questions, mais vous avez aussi le droit d'apporter un témoignage.
Oui, j'ai été plongée lors d'un voyage à Madagascar, au cœur des plateaux, dans la région d'Antsirabe. J'ai de la famille là-bas. Et nous avons été donc dans les caveaux, etc. Et puis ça m'a beaucoup interpellée, d'autant plus que dans cette famille, il y a la moitié de catholiques et la moitié de protestants. Et la famille est assez marquée, certains s'opposent fortement à ces pratiques, et c'est l'aîné des enfants, des 9 enfants, qui est d'ailleurs pasteur luthérien et qui s'y oppose, mais comme il est l'aîné, il a été très très gêné, et quand nous l'avons invité donc à Annecy, il nous a dit « ne dites pas à mes autres frères et sœurs tout ce que je pense, on va parler en vérité, et moi je suis plutôt contre. » Mais je ne peux pas, en tant qu'aîné, m'y opposer complètement. Voilà. Et c'est pour ça que ça m'a permis d'élucider quelque chose. Merci.
Tout à l'heure, vous avez parlé d'une spécificité protestante. Et moi qui suis catholique, j'ai pas vu de différence. Et j'ai l'impression que l'au-delà, et ensuite la résurrection finale, la résurrection des morts, j'ai l'impression qu'on est quand même bien sur la même longueur, non ? Non ? En partie. Non, non, mais ce que vous disiez tout à l'heure, parce que quand on fait nous une célébration, on la fait essentiellement pour les vivants, qui sont là pour accompagner le défunt. Le défunt, il est en face de Dieu, bon, mais c'est fini.
Merci. Alors, vous avez raison, évidemment, c'est toujours difficile avec les généralisations, et que probablement il y a eu une évolution, et quand vous dites, ben voilà, le défunt est devant Dieu, c'est fini. C'est pas quand même toute l'histoire de la tradition catholique. Et jusqu'à l'époque récente, ou dans d'autres pays, il y a tout un accompagnement. Je veux dire, l'idée du purgatoire, l'idée qu'on peut soulager, favoriser, accompagner, c'est qu'il y a un thème de toute la tradition, je pense. Si j'ai parlé d'exception, c'est pas au niveau des représentations, on a les mêmes fondements de l'évangile. Par contre, au niveau, effectivement, dans le rituel lui-même, l'importance qui est donnée, bien sûr qu'on est d'accord pour dire qu'on accompagne les vivants. Oui, mais attendez, comme je dis, même les protestants ne peuvent pas s'empêcher de dire deux, trois choses un peu les mérites. Pourquoi on doit dire les mérites à ce moment-là? On éprouve bien quelque chose d'un autre ordre qui est un reste d'une longue tradition. Dans le cas de la tradition catholique, alors peut-être corrigez-moi, et là je ne parle pas spécifiquement peut-être de votre paroisse, mais je crois que globalement, ce n'est pas faux de dire qu'il y a une attention qui est donnée aux morts. Je prends un exemple, je vais juste mentionner rapidement, mais ça mériterait. Hein. Voilà des décennies que l'Église catholique prêche de la Toussaint, c'est pas la fête des morts. Mais sortez dans la rue, posez la question. Je veux dire, il y a une capacité de résistance extraordinaire, et ne me faites pas croire que c'est simplement parce que les gens ont l'oreille dure. Non, parce que ça s'inscrit dans quelque chose de l'ordre de l'émotionnel, de ce qui nous touche, et que cette confusion-là, elle n'est pas là par hasard. Alors, quand j'ai dit une spécificité protestante, c'est parce qu'à l'échelle de l'histoire des religions, au fond, il y a eu plutôt une profusion de rituels, de démarches, de prescriptions, de choses à faire ou à mentionner que cette relative discrétion dans la tradition protestante. C'est pas du tout une supériorité. Il me semble néanmoins, même dans la pratique, hein, on va voir, on va mentionner une année après, où on va mettre une photo, on va annoncer la chose dans l'ordre des commémorations, une pratique qui est quand même, me semble-t-il, mais corrigez-moi, beaucoup plus largement catholique que protestante. Mais vous avez, c'est pas une réponse définitive, je vous explique le fondement de mes remarques. Merci. Je vais vous demander de vous approcher. Merci. Oui, que reste-t-il en Occident de l'héritage des traditions religieuses par rapport à la modernité qui sape ses représentations ?
Écoutez, je crois que là, vous posez une question... Que reste-t-il ? Ben, manifestement, tout ce qui tourne autour de la mort demeure un des points de repère. Hein, quand Machin meurt, il y a tout un rituel. Quand un président de la République meurt, et tout d'un coup, enfin, on peut penser au Panthéon, etc. Il reste un certain nombre de choses. La seule chose, c'est que on n'est plus dans ce monde de représentation où le rapport aux morts, enfin, l'harmonie de la société se joue dans le rapport entre les vivants et les morts. Alors, je crois que là, il y a eu un élément de rupture. Maintenant, quand on parle avec les gens, alors, l'au-delà fait partie des représentations, j'allais dire, un peu implicites, mais l'idée qui revient très souvent, c'est que on va se retrouver. Alors, on ne sait pas qui, on ne sait pas où, on ne sait pas. Mais c'est quelque chose qui est assez largement exprimé. Hein. Bon, d'où vient cette idée, on va se retrouver hein. Même pas des évangiles. Si je lis les évangiles, c'est pas vraiment ça le message. Jésus qui ont posé la question, ben, je sais pas. Voilà. Et néanmoins, je crois qu'il y a ce fond-là qui effectivement perdure. On a eu moi je trouve qu'il y a eu un élément très intéressant par rapport à la mort, c'est-à-dire la volonté à un moment donné de l'escamoter. Hein. Et tout était entrepris pour la mettre de côté, pour qu'on n'en parle pas, pour, etc. Aujourd'hui, inversement, je suis frappé de voir le nombre, alors, ou d'expositions, de thèmes, où la mort redevient quelque chose dont on ose parler, parce que elle est une échéance, alors on l'a dit, hein, elle nous touche, évidemment, on n'est pas neutre comme ça, une description, mais en même temps, il semble que dans notre modernité, il y a un peu d'humanité qui revient. Ça c'est ma perception que je suis prêt là aussi à confronter si d'autres éléments. Ce qui par contre a radicalement disparu, c'était ce monde de j'allais dire presque de l'évidence. Hein. On est dans j'ai parlé de l'impensé ou l'impensable, on pourrait aussi parler de l'indicible, quand on a un entretien avec les familles, quand on veut accompagner professionnellement, on est là, on se sent à la limite, et en même temps, il y a une attente, mais qui a beaucoup de peine à être articulée. Donc on est, me semble-t-il, en modernité, dans ce fond qui nous a porté, qu'on a dépassé, et pour lequel on n'a pas encore véritablement le relais. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est les tentatives de services funèbres laïcs ou de cadres hors religieux qui moi me paraissent quelque chose d'intéressant parce qu'ils vont être le véritable test. La tradition chrétienne va porter son message. Oui, mais qu'est-ce que un certain nombre de tentatives qui sont faites aujourd'hui vont conserver d'humanité, hein, je ne demande pas une confession de foi trinitaire, je sais pas quoi, mais qu'est-ce que va comporter d'humanité face à cette grande question que demeure la mort. Et on avait l'impression à un moment donné, je parle ici pour Genève, qu'il y avait un grand développement des services laïcs, c'est pas le cas aujourd'hui. Donc on est encore dans cette phase d'embarras. Mais là aussi j'ai envie de vous relancer, si vous posez la question, vous avez vous-même un témoignage ou une piste qui peut nous aider face à ça.
Ce qui m'a frappé, c'est le dernier livre de Paul Ricoeur, Livre posthume, où il disait qu'on projetait imaginairement un autre être et un autre temps, qu'il s'en remettait cependant à la mémoire de Dieu. Pas d'autres questions ?
Je voulais simplement dire que par rapport à ce que vous disiez, je trouve paradoxal que nous soyons dans une société, dans un monde où chaque jour on est entouré de milliers de morts parce que catastrophe, attentat, enfin on vit dans un monde où la mort est vraiment présente, et d'un autre côté c'est toujours le tabou de la mort. Alors comment pouvoir aborder ce sujet de la mort tout naturellement, faisant partie de la vie?
Je crois qu'il y a évidemment une grande différence entre la mort ou les morts des nouvelles. D'ailleurs, c'est que les journalistes, on peut mesurer l'importance de la mort par rapport à la distance. Hein. Évidemment, il y a un saut qualitatif entre les morts quantifiables, et plus ils sont éloignés, plus ils sont impersonnels, et donc entrent dans une statistique. Et puis la mort qui me touche ou qui est juste à côté, si on le voit très bien dans le téléjournal, vous regardez dans différents pays, ben vous voyez que ce qui est mis en avant, c'est toujours l'événement proche, la mort qui frappe, et en deuxième lieu, même s'il y en a davantage, celui qui est plus loin. Donc il y a un aspect quantitatif. Hein. Maintenant, par rapport à la question que vous posez sur le tabou, je crois qu'on peut parler de la mort sans tabou que dans la mesure où on a cette harmonie Alors, je crois que vous avez dit d'une manière naturelle. Mais justement, toute la question est là, est-ce que la mort est naturelle, hein? Bien sûr qu'elle fait partie de... qui dit vie, dit mort, qui dit naissance, on commence déjà à mourir à la naissance, hein? Je ne parle pas ici de la biologie, hein, les inscrits, mais je parle, hein, comment concevoir sa propre échéance. Hein. Et il me semble qu'il y a des sociétés qui font ça beaucoup mieux que nous. Alors qu'est-ce qu'on peut reprendre des autres ou de certains, dans certains villages, certaines expériences? Je pense que notre vie citadine, la vie qu'on voudrait plus rationnelle, est peu propice à, alors, entre guillemets, traitement naturel de la mort. Néanmoins, comme j'essaie de le dire, il me semble qu'il y a un peu de correction aujourd'hui. Ne serait-ce que la rencontre que nous avons ici. Je veux dire que nous puissions en parler et qu'un certain nombre considèrent que c'est un sujet qui peut être abordé. Il y a 3 ans, on a fait allusion à la plateforme interreligieuse, on a publié un calendrier interreligieux sur la mort, hein, ou l'approche de la mort et de la vie dans différentes traditions religieuses. Alors c'est vrai que ce calendrier s'est moins diffusé, hein. Alors pour des tas de raisons, je pense à une directrice d'établissement médico-social, nous on ne va pas mettre un calendrier sur la mort dans une maison de personnes âgées ou de tel exemple, mais je trouve intéressant néanmoins, puisque c'est un calendrier qui est au moins pour une partie diffusé dans les écoles, qu'au fond, d'une part, le thème a été retenu, les contributions ont été faites avec des participants de différentes communautés religieuses, et que ça a été l'occasion d'un débat. Le musée d'ethnographie à Genève a aussi organisé une grande exposition sur ce thème de la mort à vivre, et Bernard Créta est reconnu, ethnologue, est connu pour ses cafés où on traite, non pas café politique, mais il faudrait dire café... Oui, café philosophique, mais qui spécifiquement traite de la mort. Alors, je pense que le tabou est en train de tomber, mais nous avons besoin de retrouver quelque chose de cette harmonie, comme vous l'avez très bien dit, de la mort qui fait partie de la vie.
Ma question ressemble un petit peu à celle que vous venez d'avoir. Bon, je me pose quand même cette question. C'est que nous avons tous une immense espérance pour vers quoi, enfin, nous espérons quelque chose. Et pourtant, nous luttons, nous ne voulons pas mourir, nous ne voulons pas. De même que la nature tout entière. Vous prenez les animaux, ils se battront pour vivre. Vous prenez les plantes, la nature tout entière se défend et ne veut pas mourir.
Probablement parce que, au fond, il n'y a pas de vie sans volonté de vivre. Hein. La vie, au fond, l'état, j'allais dire, naturel, c'est l'état inanimé. Tout ce qui est animé, que ce soit les plantes, les animaux auxquels vous faites référence, implique au fond une forme ou une autre de vouloir vivre, de résistance par rapport à l'état inanimé. Et donc en ce sens-là, il faut bien développer une énergie et pas immédiatement baisser les bras. Moi, j'aimerais quand même citer toute une réflexion qui est aujourd'hui menée par rapport à l'accompagnement des mouvants ou par rapport à des mouvements, je sais que ça fait aussi l'objet d'un débat ici aussi bien qu'en Suisse, par rapport à Exit ou d'autres, au fond, affirmations, dire plus que la vie elle-même, c'est la qualité de la vie Et est-ce qu'il n'y a pas aussi dans une société qui... Alors, est-ce que c'est la... probablement aussi la volonté de ne pas souffrir, mais aussi une affirmation de liberté et de responsabilité par rapport à la décision à prendre, enfin, la vie jusqu'à quel point. Et je trouve intéressant qu'on a une sorte d'accord qui s'est établi au niveau des soins palliatifs. Aujourd'hui, c'est quelque chose, alors que la médecine s'est construite pour lutter contre la mort à tout prix. À un moment donné, et ça faisait intégralement partie de cet effort essentiel, parce que ce qu'on doit à la médecine, hein, et que progressivement, non sans difficulté, le thème des soins palliatifs, l'aménagement, on a accepté de parler d'acharnement, et on reconnaît le droit, que ce soit la famille, que ce soit la personne elle-même, lorsqu'elle peut s'exprimer, de refuser un acharnement. Donc voilà, on va avoir à chercher, me semble-t-il, un équilibre à trouver entre botter les bras, voilà, parce que toute vie implique une forme ou une autre de combat, mais à un moment donné, avoir aussi la sagesse, la liberté de dire stop, parce que c'est l'acharnement, c'est au-delà de ce que moi je considère comme devant être affronté. J'apporte pas une réponse, c'était pas non plus une véritable question de votre part. Ce qui est intéressant quand même, c'est que ces questions font partie de notre société, hein, et que là, les croyants deviennent des intervenants, des témoins parmi d'autres sur la recherche du sens et des normes dans lesquelles nous pouvons, j'allais dire, continuer à vivre. En ayant un minimum d'accord sur les limites. Moi, je suis relativement optimiste à cet égard-là par rapport à ces débats qui, à un moment donné, étaient véritablement tabous, véritablement exclus des échanges. En éthique aussi, c'est des thèmes qui reviennent et qui sont abordés aussi bien par au nom de la foi, au nom de chrétiens, au nom d'une espérance, que de la part d'un regard humaniste ou laïque ou autre.
Un grand merci au pasteur Jean-Claude Basset, qui a trouvé le moyen dans ses dernières phrases de résumer la semaine thématique, qui n'est pourtant pas finie, en disant que ça apportait du sens et que ça donnait début dans la vie, et voilà, donc on retrouve notre sujet, la vie et la mort, et quel sens au pluriel ça peut avoir pour nous. Donc un grand merci au pasteur Jean-Claude Basset. Alors un grand merci aussi à vous qui êtes là, parce que cette semaine thématique n'existerait pas sans vous. Et surtout, c'est un cadeau que vous nous faites, tous rassemblés ici, catholiques bien sûr, avec... le père Jean-Claude Sancet, le père Raymond Barcellini, mais tous les autres catholiques, et surtout la joie que vous nous faites de vous exprimer, ce qui prouve qu'on se fait confiance entre nous. Et puis j'oublie pas nos frères des églises protestantes évangéliques, j'avais pas pu saluer tout le monde quand ils sont arrivés, mais je les ai découverts au fur et à mesure. Merci d'être là, merci à notre ami musulman qui nous a rejoint tout à l'heure, merci à notre ami orthodoxe. Vraiment, c'est un cadeau que vous nous faites et merci de nous accompagner dans ce projet. Je vous rappelle que la semaine n'est pas finie, que demain, donc, il y a une étude biblique avec le pasteur André Boquet de l'église protestante évangélique du Cèdre à Métairie, entre midi et deux, comme d'habitude, et puis un culte qui finira cette semaine, un culte pour les familles, dimanche à 10h. Merci aussi à ceux qui veulent bien participer aux frais d'organisation de cette semaine dans les petites corbeilles que nous avons disposées à la sortie, et rentrez en paix dans vos maisons. Merci.